C'est pas du vent.
Lite kraftigt får samma mat som kossorna.
Le magazine de l'environnement.
Men då behöver de få lite extra, så då ger jag dem lite.
Sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la banquise de l'Arctique fond vite, très vite. Cet été au Groenland, une étendue de glace grande comme la Floride a fondu en une seule journée. 170 000 km² quand même. Vous vous dites peut-être que c'est loin le pôle Nord et que cela ne nous concerne pas. Eh bien, ce serait oublier que sur notre planète, tout est lié. C'est un écosystème où l'action de chacun a un impact sur les autres. Alors, quand les scientifiques constatent que les températures moyennes ont augmenté deux fois plus vite en Arctique qu'ailleurs durant les dernières décennies, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. D'abord parce que la fonte des glaciers et de la banquise fait augmenter le niveau de l'océan. Ensuite, parce que le pergélisol, ce sol gelé qui fond lui aussi, relâche des tonnes de gaz à effet de serre. Et enfin, parce que cela aiguise les appétits des pays limitrophes qui ont bien envie d'aller explorer les trésors qui se cachent dans ces sous-sols jusqu'ici inaccessibles. Il y aurait de gigantesques réserves de pétrole, de gaz et de minerais. Pas étonnant que le secteur financier s'y intéresse, donc nous allons en parler avec nos invités. Mais que dirons-nous à nos enfants quand ils nous demanderont des comptes sur la destruction de l'environnement que nous avons laissé faire ? C'est sur cette fibre de la culpabilité que mise l'association Sorry Children pour nous faire réagir. Et vous verrez, nous pouvons tous participer. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Florian Vidal.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialiste de l'écologie politique et des dynamiques régionales en Arctique. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez définir l'Arctique pour ceux qui n'en ont pas une vision très claire ? Et je pense que nous sommes nombreux.
Oui, l'Arctique, c'est un vaste espace océanique avant tout. On a tendance à l'oublier, c'est avant tout un océan. Cinq pays sont autour donc, de cet océan, se composent donc, notamment la Russie, qui a la plus grande partie en fait, de la région arctique, les pays donc, de la Norvège, du Canada, des États-Unis et du Danemark, avec le Groenland. C'est un vaste territoire qui nous semble éloigné, mais influe sur les dynamiques, que ce soit océaniques, et influence aussi également les différents aspects du climat au niveau atmosphérique.
Alors, comment se passe la gestion de cette zone entre les cinq pays limitrophes ?
Depuis le milieu des années 90, les cinq États côtiers plus l'Islande, la Finlande et la Suède ont créé en 1996 le Conseil de l'Arctique, qui est l'organisme régional de référence dans la gouvernance de la région sur des questions critiques, que sont les questions environnementales, les questions de sécurité humaine, la question de la préservation des écosystèmes et également la question des populations autochtones.
Alors l'Arctique qui fonce, c'est une catastrophe écologique, mais c'est aussi une formidable opportunité économique pour d'autres, à commencer par la Russie, qui espère dégager rapidement la route du Nord, cette fameuse voie maritime qui, sur 4000 km entre le détroit de Bering et la mer de Kara, longe les côtes polaires russes.
Oui, le cas russe est évidemment le plus, disons, représentatif aussi de ces ambitions économiques développées par ces pays. Vous avez mentionné la route maritime du Nord. Évidemment, c'est un pilier stratégique pour la Russie pour permettre aussi le développement des activités extractives, le pétrole, le gaz, mais aussi les minerais. Et c'est en fait dès le milieu des années 2000 en fait, que le pouvoir russe a pris cette décision stratégique d'amorcer le développement de cette région-là pour permettre la continuité finalement d'un modèle économique fondé sur les ressources fossiles.
L'idée de cette grande route maritime, c'est de relier les océans, en fait, l'océan Pacifique, l'océan Arctique et l'océan Atlantique, ce qui permettrait de faire circuler les marchandises.
Oui, l'idée en fait promue par le gouvernement russe, c'est de se présenter comme une alternative aux autres routes maritimes. La réalité, c'est que pour le moment, on en est très loin. La question d'emprunter cette route durant la période hivernale aujourd'hui, c'est très compliqué, très difficile. Pour emprunter cette route, il y a une seule fenêtre, c'est la période estivale.
Alors, qu'y a-t-il dans les sous-sols de l'Arctique qui aiguise à ce point les appétits ?
On trouve évidemment de tout, du gaz, du pétrole, des minerais, du charbon aussi. Les Russes ont un grand plan extractif du charbon donc dans le nord de l'Arctique sibérien. Le pétrole, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau en fait, parce qu'il faut comprendre, il y a deux, un article, il y a l'exploitation sur terre et l'exploitation sur mer. L'exploitation sur terre, notamment donc les activités minières, en Russie, ça fait depuis presque un siècle déjà qu'on mène ces activités-là. Donc il n'y a rien de nouveau, évidemment. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est la volonté d'aller toujours plus au nord, d'aller découvrir et d'aller exploiter les gisements qui sont dans, notamment dans les fonds marins. Donc vous avez la Russie et vous avez surtout la Norvège qui est un peu, si vous voulez, aux avant-postes sur ce domaine-là, qui est l'extraction offshore. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a des difficultés techniques aujourd'hui, en fait, à exploiter ce pétrole-là. Donc ça, c'est une vraie limite aujourd'hui que les pétroliers prennent en compte.
Et je rappelle que pour enrayer le réchauffement climatique, il faudrait arrêter d'exploiter les énergies fossiles. Mais c'est un message qui ne passe pas, notamment du côté des banques et des assureurs. Nous en parlons juste après ça.
Come to die. A normal life's just not for me. And I've been dreaming that I'd get so far away from politics and love. So here I am.
C'est pas du vent sur RFI, nous parlons d'un territoire particulier aujourd'hui, l'Arctique, qui abrite une formidable biodiversité et contribue à réguler le climat de la planète entière. Mais c'est aussi une zone hostile aux conditions climatiques extrêmes qui rendent toute activité économique périlleuse. Mais malgré ses limites, l'Arctique est désormais une terre de forage. On y dénombre près de 600 champs pétroliers et gaziers en production, en développement ou découvert. Une prospection qui devrait augmenter puisque les banques, les investisseurs et les assureurs soutiennent cette activité. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par l'ONG Reclaim Finance. Bonjour Alix Mazzoni.
Bonjour.
Vous êtes chargée de campagne chez Reclaim Finance et vous êtes l'auteur d'un rapport qui vient de sortir qui s'appelle « Expansion pétro-gazière en Arctique, banquiers, assureurs et investisseurs complices ». Alors vous y pointez la responsabilité de ceux que vous appelez les expansionnistes de l'Arctique. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, les réserves de pétrole et de gaz dans cette région du monde, donc pour simplifier au pôle Nord, elles aiguisent les appétits depuis plusieurs années.
C'est effectivement pas un secret que l'Arctique est convoité par les plus gros pollueurs de la planète, puisque l'Arctique, la région Arctique, contient de grandes réserves pétrolières et gazières, et que c'est un cercle vicieux, puisque plus les banquises vont fondre en Arctique, et plus ces ressources vont pouvoir devenir accessibles, plus facilement transportables et exportables. Donc effectivement, aujourd'hui, on est face à un moment critique pour l'Arctique, et un cercle vicieux climatique qu'il faut absolument arrêter.
Alors, les menaces, en plus que l'exploitation du pétrole et du gaz contenu dans cette zone représenterait pour le changement climatique, sont colossales.
Effectivement, dans le rapport, ce qu'on a calculé, c'est que si l'ensemble des réserves pétrolières et gazières qui sont actuellement recensées dans la région arctique, donc celles que nous avons calculées, on consommerait jusqu'à 22% du budget carbone qu'il nous reste pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré, qui est l'objectif international qu'on espère surtout ne jamais dépasser. Et donc ce serait plus d'un cinquième, voire quasiment un quart du budget carbone de la planète qui partirait en fumée si les entreprises, les expansionnistes de l'Arctique arrivaient à leur fin et arrivaient à exploiter l'ensemble de ces réserves.
Alors un quart du budget carbone que nous avons à disposition d'ici 2050, en gros un quart de tout le pétrole et le gaz que l'on a le droit de consommer d'ici 2050.
Encore pire, un quart de toutes les émissions de CO2 qu'on pourrait émettre donc par toutes les activités au quotidien et de toutes les industries, pas simplement liées au pétrole et au gaz.
Alors qui sont ces expansionnistes de l'Arctique ?
Parmi les expansionnistes de l'Arctique, donc on a recensé à peu près une vingtaine d'entreprises. Parmi les entreprises qui sont vraiment, on va dire, pionnières dans l'expansion pétro-gazière en Arctique, on retrouve évidemment les entreprises russes, Gazprom en tête, mais on retrouve aussi Total Energy, la majeure pétrolière gazière française, on retrouve aussi Shell, on retrouve Equinor, qui est la grosse entreprise pétrolière norvégienne. Donc tout un tas d'acteurs qui sont assez connus, en fait, toujours les mêmes finalement, et qui sont d'ailleurs souvent des très très bons clients des grandes banques du monde, que ce soit les banques françaises, les banques américaines ou les banques anglaises.
Oui, c'est là où évidemment ça se complique et vous avez fait votre travail d'investigation. Qui finance la prospection faite par ces entreprises en Arctique ? Parce qu'en plus, ça doit coûter très cher.
Oui, alors j'ai oublié de préciser qu'effectivement, la raison pour laquelle on a regardé ces entreprises en particulier, parce qu'en soi, il y en a beaucoup d'autres qui sont aujourd'hui en train de convoiter l'Arctique, mais on s'est concentré sur celles qui ont actuellement des projets en cours de développement, c'est-à-dire qu'elles ont pour volonté et elles sont déjà en train d'investir dans l'exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers dans la région arctique. Et ces entreprises-là, ce qu'on a pu calculer, c'est que à cause de ces nouveaux gisements, elles vont augmenter la production de pétrole et de gaz en Arctique de 20% dans les 5 prochaines années. Donc on est bien sur une augmentation de la production de pétrole et de gaz en Arctique, ce qui va un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre justement, parce que souvent on nous dit « mais non, mais finalement l'Arctique n'est pas si convoité que ça, c'est pas vrai, finalement les entreprises, parce que c'est trop cher, s'en sont désintéressées ». Nos chiffres montrent plutôt l'inverse justement. On va vers une hausse de la production et on va dire un intérêt renouvelé de la part des entreprises. Et derrière ces entreprises, effectivement, c'est des investissements qui sont très coûteux. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que c'est des investissements qui sont financés directement par Total, directement par Gazprom et toutes les entreprises qui sont actives. Mais derrière ces entreprises, il y a des acteurs financiers, il y a des investisseurs, il y a des banques qui viennent financer la stratégie de Total et qui disent « bah oui, je sais que dans cette stratégie, il y a des projets en Arctique et finalement, ça me va, donc je donne un chèque en blanc pour les activités de Total, y compris en Arctique ».
Alors un chèque, un gros chèque, hein ?
C'est des gros chèques, effectivement. On a comptabilisé en gros des soutiens de plus de 120 banques aux expansionnistes de l'Arctique. Au total, c'est 314 milliards de dollars de transactions financières vers cette vingtaine d'entreprises donc, qui sont en train de développer des nouveaux gisements pétroliers et gaziers en Arctique. Côté investisseurs, on décompte 272 milliards de dollars d'investis à date de mars 2021, donc cette année. Et tous ces milliards, en fait, permettent de soutenir, de financer les stratégies des entreprises qui sont aujourd'hui en train de dire « moi, j'ai l'intention de développer des nouveaux projets, des nouveaux gisements pétroliers gaziers en Arctique ».
Alors, ce qui est assez choquant à la lecture de votre rapport, c'est que quand on suit un peu ces sujets, les banques que vous pointez du doigt, BNP Paribas, HSBC, la Société Générale ou les assureurs, même type AXA, sont des acteurs qui ont pris des engagements spécifiquement d'ailleurs sur l'Arctique.
Oui, c'est vraiment très paradoxal en fait. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est intéressé à ce sujet, c'est qu'on s'est rendu compte que on savait très bien que Total Energy avait des projets dans la région arctique. Et pourtant, on savait aussi que des banques comme BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole continuer de financer Total Energy comme si de rien n'était, alors que pourtant, c'est des banques qui ont adopté des politiques sur l'Arctique. C'était même les pionnières, parce que leur politique, elle remonte à 2017-2018, donc c'est parmi les premières politiques sur l'Arctique au monde. Et pourtant, ça ne les empêchait toujours pas de soutenir un acteur comme Total Energy qui a un méga projet en Arctique aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, il y avait toute une litanie de banques et qui avait déjà adopté des politiques disant « je ne financerai plus de projets en Arctique ». Et c'est ça la petite subtilité, c'est que la plupart des politiques de ces acteurs disent « je ne financerai plus directement de projets ». Mais je ne m'empêche à aucun moment de financer l'entreprise qui est aux manettes de ces projets. Et donc on a un raisonnement par l'absurde, je ne finance pas le projet mais je finance l'entreprise qui fait le projet. Donc ça revient au même finalement, les banques, les investisseurs, les assureurs continuent de soutenir l'expansion pétrogazière en Arctique.
Et ça veut dire que personne ne vérifie quand une banque, un assureur, qui sont des gros financiers hein, à l'échelle de la planète, prendre des engagements comme ça, il n'y a pas de vérification derrière.
Ce n'est pas tellement une question de vérification, parce que c'est plutôt que leurs politiques sont faites de manière à ce qu'ils puissent finalement continuer à faire ce qu'ils veulent. En gros, dans leur politique, ils écrivent « nous ne financerons plus de projets directement ». Donc effectivement, il n'y aura pas un chèque de la banque vers le gisement pétrolier en mer de Barents. En revanche, il y aura un chèque de BNP Paribas à Total Energy. Et Total Energy va utiliser une partie de cet argent pour financer ses investissements en Arctique. Et donc c'est ça qu'on remet en cause, c'est justement ces petites subtilités dans les politiques qui permettent finalement à l'acteur financier de continuer à faire à peu près ce qu'il veut et de continuer à donner un blanc-seing à l'expansion pétrogazière en Arctique. Un autre exemple assez concret, c'est les définitions de l'Arctique. Aucun acteur financier n'a utilisé la même définition de l'Arctique. Il faut savoir que l'Arctique n'a pas vraiment de frontières bien délimitées. Donc selon les besoins, les frontières administratives vont peut-être changer, ou en tout cas chaque acteur va en prendre des différentes. Mais dans le cas des acteurs financiers, c'est vraiment assez fascinant. C'est-à-dire qu'on a décompté plus de 13 définitions différentes. Aucune des banques françaises n'a utilisé la même. Et donc c'est pour ça que nous, on en a choisi une, on les a toutes étudiées et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y en avait qu'une seule qui prenait en compte des facteurs climatiques, environnementaux, qui avait pour objectif de regarder aussi, d'évaluer la pollution et l'évolution des changements climatiques dans la zone. Donc c'est celle qui s'appelle la MAP, qui a été conçue par un groupe de travail du Conseil de l'Arctique et qui a justement pour objectif d'évaluer l'évolution des changements climatiques, l'évolution de la pollution dans la zone, tout un tas de facteurs environnementaux qui ont été pris en compte pour créer cette délimitation. Et donc c'est celle qu'on recommande aux acteurs financiers qu'ils utilisent pour harmoniser, parce que sinon on se rend compte que si chacun prend sa définition, il fait à peu près n'importe quoi juste à côté. Donc en fait, c'est des définitions faites sur mesure. Dans le cas d'AXA, c'est assez intéressant. Vraiment, ils ont pris un cercle et après ils ont dit bah, on va découper telle zone, on va aussi enlever telle zone. Mais pourquoi ? Ça ne correspond à aucune réalité climatique en Arctique, ça correspond surtout à des enjeux de l'assureur qui essaye de se préserver justement par rapport à ses clients éventuels ou actuels.
Le résultat pour AXA, quand on lit le rapport, ça donne que la zone d'exclusion où AXA a dit qu'il ne financerait plus de projets ne couvre que 54 des 599 champs pétroliers et gaziers recensés en Arctique.
Exactement. Et donc effectivement, ce qu'on a fait, on a développé une cartographie interactive qui permet vraiment de voir chaque définition, chaque acteur, comment il l'utilise, et effectivement de pouvoir comptabiliser le nombre de puits pétroliers gaziers qui sont dans cette zone d'exclusion ou à l'extérieur. Mais le plus paradoxal, c'est que même si ces acteurs affichent une zone d'exclusion, on peut se retrouver dans une situation absurde où, parce qu'ils financent ou ils assurent une entreprise comme Total Energy, peut-être que Total a des projets dans leur zone d'exclusion, mais en soi, ils ne sont pas en défaut avec leur politique. Parce que ce qui pose problème, c'est la politique et la façon dont elle a été écrite et publiée, et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent.
Merci Alix Mazzoni.
Je vous en prie.
Florian Vidal, je rappelle que vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste de l'écologie politique et des dynamiques régionales en Arctique. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos d'Alix Mazzoni ?
Mais ce qui est intéressant, évidemment, le fait que les banques et les investisseurs soutiennent, on peut voir BlackRock, qui est un des principaux investisseurs à financer ces futurs champs pétro-gaziers potentiels à explorer dans cette région-là. Ce qui est intéressant, c'est aussi les soutiens de l'État, finalement, ces États-là, que ce soit la Russie, la Norvège ou même les États-Unis, on se met derrière dans la roue des États. qui souhaitent en fait poursuivre ces développements de pétrole et de gaz pour finalement légitimer entre guillemets ce financement. Et ce qui est intéressant aussi, donc on pointe évidemment les banques et les investisseurs occidentaux, mais il ne faut pas oublier évidemment que les investisseurs, que ce soit en Chine ou ailleurs en Asie, aussi investissent massivement dans cette potentialité à explorer les champs pétrolifères et gaziers.
Pourtant, la Russie commence à sentir les conséquences des changements climatiques, hein, comme le démontre cette catastrophe écologique qui s'est déroulée en mai 2020 à Norilsk, une ville industrielle située au nord de la Russie et du cercle polaire arctique.
La pollution au diesel dans la région de Norilsk est plus grave que prévu. Il y a 10 jours, une fuite a entraîné l'infiltration dans la nature environnante d'au moins 20 000 tonnes de carburant, notamment dans la rivière Ambarnaya, dans laquelle des traces d'hydrocarbures ont été repérées, et ce malgré les barrages flottants posés en urgence il y a une semaine. Les niveaux de pollution relevés sont bien plus importants que le seuil autorisé. Cause de la fuite, probablement un immense réservoir de carburant qui alimente l'usine de nickel de Norilsk qui s'est affaissé car le permafrost sur lequel il repose commence à fondre. Cette petite partie de Sibérie, explique cet expert, est déjà l'une des plus polluées au monde. Même avant cette fuite, il n'était pas recommandé de manger le poisson pêché dans ce lac. Maintenant, c'est clair, il vaut mieux oublier. Ensuite, après avoir effectué des tests hydrochimiques, une décision sera prise quant au fait de savoir si les populations locales peuvent boire de l'eau en aval. La rivière, pour elles, c'est la base de la vie.
Florian Vidal, cette catastrophe a marqué les esprits, hein?
Oui, tout à fait. Ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est évidemment la réaction du président russe Vladimir Poutine, qui s'en est pris ouvertement, évidemment, aux responsables donc de la région de Norilsk et aussi à l'entreprise Norilsk Nickel. D'ailleurs, l'entreprise Norilsk Nickel a été condamnée d'une amende qui est historiquement très très élevée, puisqu'évidemment cette catastrophe-là a nuit aussi à l'image de la Russie, puisque la Russie prétend vouloir protéger la biodiversité de l'Arctique qui est très fragile. Aujourd'hui, on n'a pas d'explication encore définitive sur les origines de cet accident, mais c'est sans doute une combinaison de facteurs. Et le premier, évidemment, l'affaissement du pergélisol qui a favorisé évidemment l'effondrement de ce réservoir de 20 000 tonnes de diesel. Et sans doute aussi le mauvais entretien et le vieillissement des infrastructures. Et ça, c'est quelque chose d'assez critique qui, à mon sens, n'est pas assez souligné. C'est qu'aujourd'hui, une partie des infrastructures extractives russes sont obsolètes en grande partie. Et des effets de ce changement climatique, notamment dans le dégel de ce pergélisol, je rappelle, ça, pergélisol couvre 65% du territoire russe, donc c'est immense. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a un nouveau projet soutenu par le géant pétrolier russe Rosneft, donc dans la péninsule de Taïmyr, qui est située au nord donc, de la Sibérie, donc en Arctique, où l'idée est d'exploiter des milliards de tonnes de réserves de pétrole. Et donc ce projet Vostok Oil prévoit notamment dès 2030 l'extraction de 5 millions de tonnes de pétrole par an. Et derrière, ce sont des infrastructures. Donc ils veulent construire 15 communautés qui rassembleraient 400 000 employés. Il y aurait 800 km d'oléoducs qui seraient construits, 3500 km de lignes électrifiées. Donc ça, ces infrastructures-là, sur ce type de sol, pergélisol, il y a une question de est-ce bien réaliste ?
Alors cet été, la Russie a subi de plein fouet hein, les conséquences du changement climatique. Même Vladimir Poutine l'a reconnu mi-août. Donc ça a surpris tout le monde, ces propos de Vladimir Poutine, qui jusqu'à présent était quand même plutôt considéré comme un climato-sceptique.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, oui, les Russes, le pouvoir russe a bien compris que désormais, il y avait plus de coûts que d'avantages aux effets du changement climatique, parce que pendant très longtemps, le pouvoir russe et Vladimir Poutine en tête présentaient le changement climatique comme une aubaine. Notamment, ça allait libérer les fameuses terres noires très productives pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, ce discours a changé puisque, évidemment, chaque été, désormais, la Russie est témoin de ces méga-feux en Sibérie. Et ça, c'est aujourd'hui, il y a un impact important qui affecte évidemment l'écosystème de cet espace-là, mais aussi affecte les populations qui résident, avec notamment ces fumées qui couvrent les villes sibériennes. Ce qui est intéressant dans le discours du président Poutine, c'est qu'il admet les changements, mais il reste en fait toujours sceptique sur la question de l'origine. C'est-à-dire qu'il est très ambivalent, c'est-à-dire qu'il rappelle toujours que pour l'instant, l'origine anthropique n'est pas quelque chose d'avéré certain. Et ça, si vous voulez, ça se retrouve aussi au sein de l'opinion publique russe. En fait, aujourd'hui, l'opinion publique russe est assez divisée. Vous avez une partie qui, évidemment, pense que ce changement climatique est d'origine anthropique, mais vous avez une autre partie de la population qui pense que c'est en partie dû à des processus naturels propres à la Terre. Donc, ne fait finalement que refléter ce que l'opinion publique russe pense. Mais ce changement de discours, pour autant, il n'y a pas, si vous voulez, une sortie programmée du modèle d'extractif des ressources fossiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un plan sur les 10 prochaines années où on compte exploiter massivement le pétrole, le gaz dans la région arctique, même s'il y a des choses qui commencent à se préparer, à se présenter pour diminuer les émissions de CO2 sur le territoire russe. Mais pour autant, ils ne veulent pas abandonner, si vous voulez, ce rôle d'exportateur. Puisque derrière, c'est le financement en fait, d'un modèle économique.
Oui, c'est-à-dire que toute l'économie de la Russie repose finalement sur cette extraction des énergies fossiles.
Tout à fait. Le budget fédéral dépend très largement en fait, de ses revenus pétrogaziers. Donc le pouvoir actuel ne peut pas se dispenser de cette manne financière qui est indispensable pour financer leur ambition aussi géopolitique. Il faut aussi avoir ça en tête.
Oui, c'est ce qui maintient encore aujourd'hui la suprématie de la Russie à l'échelle du monde.
En tout cas, comme étant une puissance géopolitique remarquable, oui, et pour le maintien aussi du système politique russe qui est fondé sur cette économie-là. Après, il faut savoir que finalement, le modèle économique russe basé sur l'extractivisme, c'est un modèle qui est fondé depuis un siècle, en fait. L'Union soviétique a été fondée également sur cette ressource-là.
Donc, ça va être difficile d'en sortir.
Il y a un vrai défi, évidemment, de rompre cette dépendance-là. Et la Russie, depuis 15 ans, n'a pas réussi à diversifier en fait, son économie. Donc ça, c'est un vrai, véritable enjeu, cette dépendance aujourd'hui qui est toujours là. Contrairement à d'autres États de la région arctique, si on prend la Norvège, qui essaye de véritablement essayer de sortir de cette dépendance du pétrole, c'est difficile. Mais ils ont des projets, ils tentent en fait à diversifier leur économie. Évidemment, l'exemple dans la région qui est un peu la lumière au bout du tunnel, c'est le Groenland qui les autorités ont mis un terme définitif à l'attribution de licences d'exploitation de pétrole donc offshore, en expliquant que finalement le coût environnemental d'un tel développement serait trop élevé pour l'écosystème de la région. Et qu'aujourd'hui, le choix du gouvernement du Groenland, des autorités donc groenlandaises, est de développer donc un modèle économique soutenable, en partie évidemment sur le développement du tourisme et de la pêche. La pêche a un rôle très important pour l'économie locale.
Merci beaucoup, Florian Vidal.
Merci à vous.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Cette enquête démontre que le système financier mondial n'est pas du tout au service d'une transition vers des sociétés soutenables qui préservent les écosystèmes et satisfont les besoins des populations. C'est pourtant l'objectif de Reclaim Finance que vous avez fondé. Lucie Pinson, bonjour.
Bonjour.
Vous avez reçu le prix Goldman de l'environnement, la plus grande distinction dans ce domaine pour le combat que vous menez depuis des années. Limiter l'expansion des énergies fossiles nocives pour le climat en luttant contre leur financement. En gros, vous tapez là où ça fait mal. Mais cette enquête sur les banquiers et les investisseurs complices de l'expansion pétrogazière en Arctique démontre que le chemin est encore long.
Oui, et en effet, ce n'est que le haut de l'iceberg puisque on sait aujourd'hui qu'il suffira pas seulement de sortir du charbon ni d'arrêter de financer l'expansion en Arctique, mais bien d'arrêter l'expansion pétrogazière partout dans le monde. Donc de ne plus ouvrir de nouveaux champs pétroliers ou gaziers dans tous les secteurs, que ce soit l'Arctique, mais également les sables bitumineux, les gaz de schiste et les pétroles et gaz conventionnels qu'il va falloir acter aujourd'hui. Or, malheureusement, on voit que la finance française ne nos grandes banques, nos grandes sociétés d'assurance et d'investissement, si elles ont mis en place les mesures nécessaires pour sortir du secteur du charbon, eh bien, elles n'ont quasiment rien fait aujourd'hui pour mettre un terme à leur soutien à l'expansion pétro-gazière et sont donc elles sont en complète porte-à-faux avec les recommandations à la fois des scientifiques du climat, mais également de l'Agence internationale de l'énergie qui a stipulé en mai 2021 que pour atteindre la neutralité carbone, il fallait arrêter l'expansion pétro-gazière.
Alors la finance, c'est un peu l'équivalent du sang pour le corps. Hein. La finance, ça irrigue toute la société. Quels sont les outils dont vous disposez pour peser face aux banques et aux assureurs qui maîtrisent ce marché ?
Alors, en effet, aujourd'hui, aucun nouveau projet d'infrastructure énergétique ne peut se développer sans les couvertures d'assurance, notamment de la part d'AXA, qui est l'unique assureur en France qui fournit des couvertures pour les grandes multinationales du secteur énergétique. Il en est de même d'Allianz ou de Zurich. Et aucun projet ne peut se développer sans les soutiens, bien entendu, des banques et des sociétés d'investissement. Nous, notre principal outil à notre disposition pour peser sur les décisions des acteurs financiers, au-delà de toute notre expertise qui est importante et qu'on met à disposition de ces acteurs, c'est bien entendu l'arme publique en pointant le risque réputationnel pour ces acteurs de continuer à soutenir le développement d'activités en contradiction la plus totale avec leurs propres engagements en matière climatique. Il faut rappeler que la place financière de Paris souhaite devenir la capitale de la finance verte, que nos grandes banques et nos grandes sociétés d'assurance et d'investissement ont pris des engagements en matière climatique, souhaitent contribuer à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Et pourtant, aujourd'hui, ces entreprises-là, ces acteurs financiers soutiennent des activités que la science nous dit être incompatible avec l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc dans nos rapports, nous pointons l'hypocrisie de ces acteurs-là, l'écart entre leur beau discours et la réalité de leurs pratiques pour montrer le revers de l'image verte qu'ils entendent mettre en avant pour gagner des nouveaux clients, attirer une nouvelle force de travail, voilà les étudiants qui sortent des grandes écoles, et également gagner de nouveaux marchés, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de l'argent à se faire sur le marché de la finance soi-disant verte.
Et c'est vrai que petit à petit, la sensibilité sur ces sujets dans l'opinion monte, donc vous misez en fait sur le fait que de plus en plus de clients, s'ils lisent vos rapports, hein, c'est pour ça que c'est important de les médiatiser, vont se détourner des banques qui font des financements d'énergie fossile. Maintenant, la question, c'est que c'est à l'échelle internationale. Alors, Reclaim Finance se développe extrêmement vite. Vous êtes déjà une vingtaine dans de nombreux pays.
Alors, on a aujourd'hui une équipe qui est principalement basée en France, notamment à Paris, même si nous avons quelques salariés en Suisse, à Londres et aux États-Unis. Ceci étant dit, aujourd'hui, tout en étant basé à Paris, nous pouvons agir sur la finance internationale. Et en effet, nous pointons du doigt pas seulement la responsabilité des acteurs financiers français et des banques françaises qui n'ont cessé d'augmenter leur financement aux énergies fossiles depuis la COP21, mais également celle, bien entendu, des acteurs internationaux. Et nous avons publié encore cette année un rapport avec nos partenaires qui pointait la responsabilité des 60 plus grandes banques au niveau international dans le financement des énergies fossiles depuis fin 2015, avec 3 800 milliards de dollars de financement aux énergies fossiles, dont 295 milliards de la part de nos grandes banques françaises, un montant qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc nous sommes particulièrement mobilisés, bien entendu, en France pour mettre la pression sur les acteurs français qui ont des grosses échéances avec non seulement la COP, mais également le Climate Finance Day qui se tiendra à Paris le 26 octobre. Et on attend des engagements de la place de de Paris, notamment dans l'arrêt du financement au développement de nouveaux projets pétroliers et gaziers et aux entreprises qui les développent dans les secteurs non conventionnés, donc vraiment dans les secteurs les plus risqués, à la fois pour le climat, mais aussi pour les écosystèmes et la biodiversité. Et puis, bien entendu, nous regardons aussi de très près comment le secteur britannique va agir ou non pendant la COP26, puisque celle-ci se tient à Glasgow et que nous savons aujourd'hui que la City, les grandes banques, notamment Barclays ou HSBC, sont très en retard au niveau international dans l'adoption de mesures pour couper leur soutien aux énergies les plus polluantes.
Merci Lucie Pinson.
Merci à vous.
No fish. Oh, it ain't my fault. But BP, big pimpin', big problem, bad presence. Billionaire pirate, boiling point, first pressure. Oh, it ain't my fault. Say, man, who pushed the marsh back? It's where the hurricane shelter in the garden at. Oh, it ain't my fault. Shit, from the Gulf of Mexico to the broke levee wall, something gone wrong and it's somebody fault. Oh, it ain't my fault. Scripts say the city go to the rock and hide they face. Say the rock cried out, no hiding place. City go to the rock and hide they face. Say the rock cried out, no hiding place. City go to the rock and hide they face. Say the rock cried out, no hiding place. Oh, Lord. Hold up, it ain't my fault.
Crise climatique, crise de la biodiversité. En 150 ans, les Occidentaux ont réussi à menacer l'habitabilité de la Terre pour l'humanité. Alors, sorry children, désolé les enfants, oui, ceux qui grandissent en ce moment et qui formeront les fameuses générations futures. Nous sommes désolés parce que oui, nous avons tous une excuse et c'est le point de départ, justement, Grégory Poinsenet et Pierre Charrier, de votre projet associatif Sorry Children, qui s'incarne aujourd'hui dans des centaines de photos de personnes qui brandissent leurs pancartes avec leurs excuses. Des photos majoritairement prises par le photographe Joseph Elie, mais aussi de plus en plus par les personnes elles-mêmes. Tout cela donne un livre fraîchement publié et une application pour qu'un maximum de gens puissent s'emparer de cette initiative. Donc, bonjour à tous les deux.
Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors tout d'abord, Grégory Poinsenet, ça sert à quoi de collecter les excuses des gens qui regrettent d'avoir contribué à la destruction de l'habitabilité de la planète?
Alors, on pense déjà, ça sert à réfléchir à qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à nos enfants si on n'a pas réagi à temps, ou si on ne réagit pas du tout, ou si on ne fait pas le maximum. Et donc, à prendre ce petit moment d'introspection, à se dire quelle va être l'excuse que je vais donner, voire quelle va être la pire excuse au moment de mourir, hein, au moment de partir. Voilà, quelle est la pire excuse, donc qu'est-ce qu'on ne veut pas dire à nos enfants? Ben, ça sert à essayer de fixer ce qui est le plus important pour nous et de réagir. Et donc, on demande systématiquement la meilleure action qui est proposée, qu'on fait déjà ou qu'on devrait faire, pour ne pas justement donner cette excuse-là. Comme ça, on arrive à se concentrer, si on joue vraiment le jeu, à qu'est-ce qui est le plus important pour moi et qu'est-ce qui va être le plus urgent justement pour réagir par rapport à ça. Donc, c'est un projet qu'on a commencé il y a 3 ans par un site internet qui s'appelle sorrychildren.com avec un générateur d'excuses, donc des excuses toutes faites à donner à nos enfants. Et de fil en aiguille, voilà, Joseph Féline nous a proposé d'utiliser la photo pour développer notre projet. Donc, on a imaginé cette campagne avec des personnalités d'abord, et puis ensuite beaucoup de citoyens qu'on a rencontrés sur différents événements. Et voilà, donc ça a très bien marché sur les réseaux sociaux. On a recollé une partie sur les murs à Paris, à Bordeaux, des photos qui ont été prises. Et on en fait maintenant un livre avec la majorité des photos et une analyse, une explication vraiment d'où viennent ces excuses, quels sont tous les biais cognitifs qui sont en œuvre et comment on essaie de les dépasser, comment on essaie de réagir par rapport à ça.
Alors Pierre Chardier, quelles sont les grandes catégories d'excuses, par exemple, pour avoir essayé d'exploiter la dernière goutte de pétrole en Arctique?
Eh ben, on a des excuses qui sont à pas mal de niveaux. En fait, le premier niveau, c'est peut-être au niveau de notre cerveau. On a pas mal travaillé là sur le livre avec Sébastien Boller qui a écrit Le bug humain. Et lui, son excuse, c'est « mon cerveau me poussait à surconsommer ». Dans notre cerveau, on a un organe qui est le striatum et qui est vraiment un organe qui va nous envoyer des décharges de dopamine quand on accomplit des choses très basiques comme trouver de la nourriture, des partenaires sexuels, avoir du statut social, du pouvoir, et en dépensant le moins d'énergie possible. Donc ce mécanisme-là, en fait, fait qu'on a une tendance à la surconsommation qui est, si on veut, neurobiologique. Après, on a des excuses qui sont au niveau plus psychologique. Donc on va chercher à se déresponsabiliser. Par exemple, Dominique Bourg, qui est un philosophe, et son excuse, c'est « pourquoi moi j'aurais fait un effort quand d'autres ne faisaient rien ?» Donc on a ces mécanismes-là, en fait, qui sont en miroir avec les autres personnes. On a Vincent Verza, qui a une chaîne YouTube « Partager, c'est sympa ». Son excuse à lui, c'est « j'attendais un mouvement de masse ». Donc c'est vraiment le mécanisme, en fait, d'interaction spéculaire. On agit en miroir par rapport aux autres personnes. Et donc ce mécanisme-là fait que ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est attendre que les autres fassent. C'est ce qu'on appelle l'attente réflexive. Donc ça, c'est un autre concept qu'on développe dans le livre. On a plein d'excuses d'ordre psychologique, sociologique. Il y a des excuses qui sont liées à notre quotidien. Bah, l'argent, évidemment, on a besoin d'argent. François Ruffin, « mes dividendes d'abord », son excuse. Donc il ironise là-dessus, c'est « on a besoin du moteur qui est l'argent ». Il y a tout ce qui est lié à la croissance. Gustave Kervern, il dit « j'aimais tellement le capitalisme ». Donc ça, c'est le culte de la croissance. Il y a aussi un côté histoire qu'on s'est raconté avec cette croissance. Ce n'est pas juste une question financière.
Alors, comme vous le rappelez dans votre livre, hein, Grégory Poinsenet, les dinosaures n'ont rien vu venir, eux, quand le cataclysme les a balayés de la planète. Alors, pourquoi les humains seraient plus intelligents que les dinosaures?
Alors, je ne sais pas si c'est une question d'intelligence. C'est, je pense, une question d'adaptabilité et de capacité à se préparer et entrevoir ce qui peut arriver. Le point commun qu'on a avec les dinosaures, c'est que c'était les dinosaures des animaux très gros qui demandaient beaucoup d'énergie. Il leur fallait beaucoup de nourriture. Ils n'ont pas su s'adapter assez rapidement. Nous, c'est pareil. Notre civilisation aujourd'hui, donc qui est basée sur une exploitation de l'énergie absolument ahurissante, 80% d'énergie fossile. C'est pareil, donc on est très énergivore, on demande beaucoup d'énergie. Quand il y a des modifications du milieu, de l'environnement, ceux qui s'adaptent sont ceux qui ont évolué et qui ont une certaine sobriété. Donc la différence avec les dinosaures, c'est qu'eux n'ont pas choisi, ils n'ont pas créé ce changement d'environnement. Météorites, éruptions volcaniques, il y a eu sûrement plusieurs phénomènes, mais ils ne l'ont pas provoqué. La différence, c'est que là, c'est nous qui la provoquons. C'est une seule espèce animale, en l'occurrence nous, qui provoque le changement d'environnement. Donc à la fois on le provoque et à la fois il faut qu'on commence à évoluer pour s'adapter parce qu'il y a des choses qui sont inéluctables. La fonte des glaciers, il y a un réchauffement qui est quand même, il y a une inertie énorme, il y a le permafrost qui commence à sortir. Donc ça c'est des phénomènes qui vont pas s'arrêter. Même si on coupait complètement le carbone qu'on émet dans l'atmosphère, il y a des choses qui vont continuer. Donc il faut qu'on commence de toute façon à évoluer, à se transformer pour s'adapter aux choses qui sont inéluctables. Les dinosaures n'ont pas eu cette chance-là, ça s'est fait trop rapidement. Leur évolution à eux était génétique, hein, l'évolution des populations animales et végétales est génétique. Nous, la grande différence, c'est que notre évolution, elle est essentiellement culturelle. Et ça, c'est dû à notre cerveau, comme expliquait Pierre tout à l'heure, à une autre partie de notre cerveau qui est le cortex, qui nous permet de faire des projections, d'être très prosociaux. Et donc, si on n'évolue pas rapidement culturellement, il y a la possibilité qu'on ne s'adapte pas et puis qu'on disparaisse tout simplement dans les siècles, millénaires à venir.
Alors Pierre, on fait quoi ?
Eh bien, on a pas mal de pistes et on les évoque dans le livre. Et sur notre site aussi, sur children.com, on a développé différents blocs. Un gros bloc d'action qu'on peut faire, c'est atténuer. Donc atténuer notre impact, c'est-à-dire atténuer notre empreinte écologique, nos émissions carbone, et toutes les pollutions qu'on peut émettre dans notre consommation de tous les jours, en fait. Donc pour atténuer, il y a des actions très simples. Par exemple, devenir végétarien, c'est une action qu'on encourage à faire parce que n'importe qui peut arriver à avoir une consommation végétarienne. Et ça diminue très fortement notre impact alimentaire parce qu'on va avoir une diminution forte du bilan carbone, des surfaces occupées, de l'eau, de l'énergie dont on a besoin pour produire de la nourriture bovine, notamment. Évidemment, réduire ses transports, essayer de beaucoup plus partager, mutualiser, tout ça, c'est des actions qui visent à réduire individuellement. Donc ça, c'est individuellement. Les entreprises doivent faire de même. Les politiques doivent encourager ça. Donc c'est une sorte de cercle vertueux qu'il faut arriver à pousser. Ça, c'est pour l'atténuation. Et l'autre gros bloc d'action qu'on encourage à faire, c'est s'adapter. Et s'adapter, c'est accepter qu'il y a des choses dans ce qu'on décrit qui sont inéluctables et qu'on ne va pas régler. Et donc, il va falloir qu'on arrive à s'adapter à la situation qui arrive. Et donc, pour s'adapter, il faut qu'on se prépare à être beaucoup plus résilient. Et donc, pour être plus résilient, il faut qu'on se relie les uns les autres. Il faut qu'on arrive à développer notre autonomie alimentaire, énergétique, pour être moins dépendant des énergies fossiles. Et qu'on arrive à créer des réseaux locaux. Donc, beaucoup, beaucoup plus encourager l'entraide, la coopération, tous les mécanismes qui nous relient à des milieux proches de nous. Voilà, essayer de beaucoup moins dépendre de biens de consommation qui sont faits à l'autre bout de la planète et revenir à du local en se reliant. Voilà, en gros.
Et Grégory, on développe un maximum Sorry Children ?
Ben oui, oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc nous, on est une petite équipe, hein, on est tous bénévoles, mais on passe beaucoup de temps dessus. Donc là, on vient de mettre en ligne une application en même temps que le livre. Donc si vous allez sur les smartphones, tous les smartphones, il y a une application. Et donc, on invite vraiment tout le monde à rejoindre la campagne, donc à prendre un petit moment de réflexion, à vous demander quelle est la pire excuse. Et avec l'application, vous pouvez générer le visuel avec la pancarte, votre photo, et la partager sur les réseaux sociaux pour participer justement à cette réflexion qu'on encourage et à cette évolution culturelle. Et donc, on a cette application et on est en train de se développer aussi, on essaye de se développer à l'international, notamment en Afrique, bien sûr, en Outre-mer, aux États-Unis. Là, on est en train de prendre des contacts avec des gens en Chine. Et l'idée, c'est le plus rapidement possible qu'il y ait un maximum de monde qui se pose cette question-là. Voilà, quelles sont vraiment les excuses que je ne veux pas donner et qu'est-ce que je fais pour ne pas les donner, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, surtout.
Voilà, donc on mettra toutes les coordonnées de votre initiative sur la page de l'émission. Votre livre « Sorry Children » est publié aux éditions Alternatives et l'application est téléchargeable pour tous ceux qui ont un smartphone. Voilà, n'hésitez pas, où que vous soyez dans le monde, votre contribution sera la bienvenue. Prenez le temps de chercher votre excuse et de voir comment vous pouvez agir pour éviter d'avoir à la prononcer finalement. Merci à tous les deux.
Merci à toi, Cécile. Salut.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour cela. Continuez à nous écrire, c'estpasduvrin@rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.